Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes au lendemain de l'élection présidentielle. Et franchement, elle était sans surprise. Hein. Enfin, ce second tour était sans surprise. Le suspense s'est un peu joué au premier tour avec Mélenchon en embuscade, lui et M. Zemmour aussi. Si on se référait au nombre de personnes qui, enfin, à la ferveur des meetings. Alors, le premier tour était très intéressant parce qu'il y avait quand même la diversité, la multiplicité des candidats et des offres et de l'offre politique. Même si, en dehors de Mélenchon en particulier et de un peu Monsieur Zemmour, on n'a pas eu une forme de révolution culturelle, à proprement dit, oui. Et puis, on a quand même, avec Madame Le Pen et Monsieur Macron, pas seulement du déjà vu, mais du classique, de ce qu'on a depuis longtemps. Bon, pourquoi pas, le classique a son charme. On a eu ce second tour où bon, on peut toujours dire que l'abstention était importante ou pas. Bon, l'abstention, ça compte pas trop, sauf le jour où on fera un quorum, on mettra en place le quorum. Et tant qu'il n'y a pas de quorum, bon, l'abstention, ça compte pas, le vote nul, ça compte pas et tout. Ce qu'il faut déjà dire quand même aux citoyens, c'est que si l'abstention, c'est là je parle surtout du premier tour, hein, l'abstention, ça c'est pas citoyen, c'est pas un comportement citoyen, c'est pas responsable. Et on peut pas avoir tout ce qu'on veut, il faut aller voter. C'est comme ça la vie, il y a ce qu'il y a, ben vous votez avec, on fait avec ce qu'on a, même si on veut que ça change. C'est vrai que dans d'autres pays, le vote est obligatoire et qu'on peut penser que ce n'est pas parce que c'est obligatoire qu'il n'y a pas des bulletins nuls, des bulletins blancs, vous n'allez pas obliger les gens à choisir un candidat alors qu'il n'y a personne qui représente leurs idées. Alors, c'est aussi une question de maturité politique. Enfin, politique, c'est pas individuel que de se dire, voilà, il y a des élections, on va aller choisir le moins pire. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas vraiment quelqu'un qui représente vos idées, et de toute façon, vous n'aurez jamais cela. Donc, pour le citoyen qui s'abstient et qui dévoie le premier tour, je vais pas dire lamentable, mais ça fausse tout aussi, parce qu'au-delà de toutes les combines qui sont mises en jeu pour se faire élire, notamment ce que j'avais dit l'autre fois en parlant des tribus, vous voyez, chacun va activer sa tribu immigrée, l'autre va activer sa tribu, vous savez, on ne peut pas nier le fait que le vote juif a eu ici un impact considérable, les autres vont activer les tribus de la franc-maçonnerie, ça, ça existe, les tribus ésotériques. Les autres vont activer probablement les... Bon, on n'a pas vu de candidat qui activait vraiment le credo religieux. Et probablement que Madame Le Pen a eu le vote religieux, plus que Monsieur Zemmour, qui manquait de générosité, ça on avait dit, et le vote chrétien... ses cordes, et traditionnellement, il va à Madame Le Pen. Bon, est-ce que c'est pour cela qu'elle est arrivée en deuxième position, c'est-à-dire que la France serait juive d'une part et chrétienne de l'autre? C'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'il y a pour moi une grande interrogation Comment se fait-il que Madame Marine Le Pen puisse être deuxième dans cette élection, alors qu'elle a fait une campagne à minima par rapport à ce qu'elle fait souvent, à un moment donné, elle s'est même arrêtée. Comment se fait-il? Donc, ça veut dire qu'elle a un électorat solide, stable, un noyau électoral fort. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal parce que on peut pas comprendre que Madame Le Pen est ce noyau dur, hein, de la chrétienté, et que de l'autre côté, quelqu'un qui est arrivé comme Monsieur Zemmour ne l'est pas. Bon, enfin, quand je dis Monsieur Zemmour, c'est parce qu'ils sont proches idéologiquement parlant. C'est peut-être aussi, bon, vous savez, en politique, hein, il y a quelque chose qui se joue aussi et qui favorise justement les partis d'établissement, comme disait Monsieur Le Pen, ou alors le fait que les gens se réfugient dans le vote utile par le démon qu'ils connaissent, comme on dit, c'est la durée en fait, c'est la durée aussi. Plus vous êtes là, plus les gens s'habituent à vous, plus ils sont enclins à voter pour vous lorsqu'ils ont un peu peur ou sont un peu dans l'incertitude. Bon, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte aussi que pour la durée, le vote utile a laminé les républicains, il a laminé les socialistes qui sont pourtant des partis d'établissement. Bon, Monsieur Macron, c'est pas nouveau, hein. Depuis la dernière fois, il a fait une OPA sur ces deux partis qui sont allés se rendre auprès de M. Macron. Alors, je ne sais pas ce qu'ils espéraient cette fois-ci, parce qu'il faut se rendre compte à l'évidence que ben, les Républicains, parti de droite classique, et la gauche, le PS, ben, peut-être qu'avec cette élection, en vrai, législative, mais avec cette élection, il y a une confirmation peut-être de leur, pas disparition prochaine, même. Il y a un problème, il y a un problème. Je ne sais pas si lorsque M. Macron partira, ils reprendront la main, mais je ne sais pas. C'est curieux, comment on va dire, cette évaporation du vote LR et PS. C'est curieux. Là aussi, il n'y avait pas de noyau dur, mais Madame Le Pen, dans tout ça, parti classique, devant LR et devant le PS conserve son noyau dur, conserve son noyau dur, comme quoi la chrétienté, c'est quelque chose, c'est une valeur sûre parce que les fidèles sont constants, ils sont là et ils ont la foi. Alors les autres, probablement qui manquent la foi, c'est ce vote et voilà, intéressant et en même temps, il pose des problèmes à la République, parce que si c'est le religieux qui reprend le dessus sur tout ce qu'on disait sur la République, encore que la République s'est inspirée de la religion, c'est une question. Fallait-il donc la République? Est-ce que la royauté n'apportait pas déjà de solution? Il fallait juste peut-être faire comme en Grande-Bretagne? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça pose beaucoup de questions. Et quant au second tour, bon, alors on arrive avec les choix qu'on voulait pas. On les pressentait, mais on disait non. D'abord parce que l'effet de l'usure du pouvoir. On a eu ces débats, Madame Le Pen, Monsieur Macron, déjà la dernière fois. Bon, on reprend ça les mêmes 5 ans après. Ça veut donc dire que la démocratie ne respire pas. On peut pas, c'est rare dans l'histoire des élections, d'avoir les mêmes d'une élection à une autre. Soit la France est figée et n'évolue plus, soit les gens sont vraiment très désespérés et perdus, soit c'est la République et la démocratie qui est carrément bloquée, carrément. Et bloquée par quoi? C'est ça la question. Bloquée peut-être par des réseaux souterrains qu'on ne voit pas, comme l'économie est bloquée, comme les finances sont bloquées. Alors c'est ce gel démocratique est aussi une question. C'est une question, c'est un problème, parce qu'on ne va pas continuer à parler démocratie aussi facilement si de l'autre côté, les choses sont capturées en amont de façon à neutraliser le vote des peuples qui, eux aussi, aggravent la situation avec l'abstention. Parce que si les choses sont capturées, on capture forcément ceux qui vont voter. On ne va pas capturer ceux qui s'abstiennent. Donc c'est vraiment le collectif des indécis et de ceux qui, des abstentionnistes, qui peut faire basculer les choses, si tant est que on aura toujours les mêmes figures qui marchent avec des réseaux divers. On n'est pas déçu, hein, parce que, bon, enfin, moi, je suis pas déçu. Oh. Après le premier tour, j'étais déçu de revoir la même chose, parce que j'aurais quand même voulu voir Monsieur Macron être opposé à Monsieur Mélenchon ou à Monsieur Zemmour, mais pas avec Marine Le Pen, encore une fois de plus, parce qu'on savait que au débat, il va la mettre knock-out. Bon. Les gens ont joué avec le feu. Est-ce qu'ils ont joué avec le feu? C'est-à-dire que le vote lui-même, il devient. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours faire des grands calculs. Hein. Quand on va voter, on vote avec son cœur. Mais si on impliquait un peu, enfin, on pense aussi un peu plus que le cœur, ben, peut-être qu'on verrait qu'il y a des votes qui sont perdus, pour le coup, inutiles pour le peuple, mais certainement utiles pour le parti et le Rassemblement national. Je vois qu'aux législatives, Monsieur Zemmour appelle à l'union des droites, c'est-à-dire les RN, les Républicains, le Rassemblement national. Bon, ça m'étonnerait que ça marche, hein, je ne crois pas. Parce que déjà, les Républicains se sentent plus en phase avec Monsieur Macron, qui est quand même lisse. Hein. Le cas Macron, parlons-en un peu, il fait quelque chose. Parce que la campagne aujourd'hui, c'est soit Macron, soit Zemmour. Dans ce sens que, en termes de discours, hein, vous pouvez arriver, comme Monsieur Zemmour, et tout cracher, vous allez faire ces exercices. Ça marche pas, parce qu'il y a certaines choses qui ne passeront pas, elles ne sont pas en phase avec le politiquement correct. Vous devez aussi vous battre avec les journalistes qui vont essayer de vous démolir ou alors de trop vous mettre en avant pour vous exposer dans l'exagération, ce qui se passe aussi avec Monsieur Zemmour. On est pris au piège. Et M. Macron et Mme Le Pen ont évité ce piège parce qu'ils ont l'expérience. Ici, on a un président qui parle de la force de l'expérience, M. Biya, au Cameroun. On a cette chose qui fait que peut-être à un moment donné, vous n'êtes peut-être pas obligé d'être démagogue, parce que démagogue, c'est dire ce que vous n'allez pas faire. Mais vous devez éviter certains sujets, comme l'immigration en particulier. Comme tout ce qui revient, qui peut être apparenté ou assimilé à l'affaire de l'histoire juive par rapport à Hitler, vous devez éviter ce genre de sujets qui sont à la fois traumatisants et, je ne veux pas dire complexes, complexes pour la question africaine, oui. Et vous devez faire silence sur des choses dont on parle, mais qui sont tabous, publiquement tabous, donc il faut entrer dans le jeu des tabous. Et il faut savoir, la dernière fois, j'ai dit que les immigrés se sont appropriés la France de façon désespérée, à la fois parce qu'ils ont été incapables personnellement de faire une révolution chez eux, mais aussi avec cette culpabilité quand même quelque part, ils arrivent en France en se défaussant sur la France qui serait responsable de ci, de ci, de ça. Mais évidemment, si vous ne faites pas la révolution chez vous, vous allez exagérer la responsabilité de la France. Et du coup, vous faites payer à la France toutes ces choses-là, à la fois votre propre forfaiture et aussi, bon, bien sûr, la mainmise de la France, on dit la main basse de la France sur les matières premières et l'économie africaine. Ça devient très compliqué au cours d'une campagne de faire ressortir tout cela parce qu'il y a des souffrances tellement profondes qui apparaissent dans des discours sous la forme d'une révolte des banlieues. En plus, quand ça arrive là-bas, on les traite voilà, comme vous savez. Et puis, il y a le racisme qui est en cours. Dans cette campagne, on a parlé de tout sauf du racisme. Le racisme au travail, le racisme dans les formations, le racisme dans l'intégration. C'est peut-être ça qui a manqué je veux dire, la dernière marche de l'escalier. Ça manquait à M. Mélenchon parce que s'il avait essayer de poser les problèmes des inégalités sociales en ces termes-là de racisme au travail, dans les logements, dans les cités, dans tout. C'est-à-dire en faire un thème tellement fort, je crois que les immigrés seraient venus, mais les immigrés sont partis, curieusement, massivement vers Macron. Ils sont partis vers Macron parce que Macron leur apportait la stabilité, c'est-à-dire que comme la France aujourd'hui, c'est la France d'aujourd'hui, leur convient très bien. S'il faut changer, comme Madame Le Pen allait pouvoir le faire, oh là là, ça a été panique à bord, ça pouvait pas marcher. De toute façon, c'était tout cuit, Macron, Marine Le Pen, c'était tout cuit. Il fallait, c'était même pas la peine d'aller voter, mais bon, on a fait comme si. Et Marine Le Pen ne peut pas déstabiliser Monsieur Macron dans un débat. Mais bon, on note quand même sa constance. On note quand même qu'elle n'est pas ébranlée, que l'électorat est solide et que ben il faudra compter avec le Rassemblement national pour la prochaine fois. Bon, chaque fois il se fera battre, bien sûr, même si on change Marine Le Pen, le Rassemblement national se fera battre, mais c'est autant de voix en moins pour les autres candidats challengers qui doivent donc aller conquérir cet électorat religieux, aller arracher cet électorat à Marine Le Pen. Ce n'est pas gagné, c'est un travail de 5 ans qui commence avec les législatives. On verra aux législatives le score qu'elle fera, mais on sait que le Rassemblement national fait n'a pas les législatives, c'est pas leur élection favorite. Et les législatives préciseront les choses, mais je crains que vraiment le vote utile fasse de nouveaux ravages, mais disons que le vote de la stabilité, le vote, comment on va dire, de la paix, finalement, Monsieur Macron, qui a fait des choses qui faisaient hurler les Français, apparaît comme le candidat qui apaise de la paix, qui apporte de l'apaisement, qui apporte de la continuité. Il a dit qu'il allait faire mieux, vous voyez. On va le croire, on va le croire. Et c'est vrai aussi, bon, il faut dire, hein, il avait une. Il avait une meilleure équipe de campagne en termes de ce qu'il disait, de discours, d'expression. C'était vraiment très présidentiel. Moi, j'avoue, hein, c'était très présidentiel, c'était très responsable, c'était très sérieux. Il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas d'affolement, il n'y avait pas de peur. Et tout cela, c'était rassurant pour les électeurs et ils gagnent, rien à dire, rien à dire. Par l'expérience. Par l'expérience, est-ce qu'il est ce qu'il est, ça c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut gagner. Parce que les autres ont oublié que dans l'élection, vous partez aussi vous partez d'abord pour gagner. Et s'il y a des sujets qui fâchent, il vaut mieux laisser tomber. Vaut mieux laisser tomber et passer dessus en glissant, en glissant. Lui et Madame Le Pen l'ont fait très bien. Les autres se sont un peu choqués, choqués. Et puis, ils ont moins fait du rentre-dedans. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne passe pas avec les Français, faire du rentre-dedans. Donc, il faut revenir à la psychologie française pour comprendre ce vote, cette élection. Et. Bon, pourquoi pas, c'est tant mieux. Bon, pour l'Afrique, puisqu'on va terminer par là, pour l'Afrique, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change rien. La France n'a plus la main qu'elle avait auparavant. Et ce qui change plutôt pour l'Afrique en ce moment, on nous parle de la guerre en Ukraine qui fait que il y a une crise, il y a une crise de l'importation du blé au Cameroun, dans la farine. Il y a des produits, je sais pas, on a parlé du ciment, je sais pas trop compris pourquoi. Il y a le marché un peu chamboulé et cette guerre a aujourd'hui plus d'impact que la présence française en termes de, je vais pas dire développement, mais de changement de logiciel pour la pensée, parce que les Africains, jusqu'à présent, ils attendent que tout vienne de l'extérieur. Et dès qu'il y a rupture des stocks comme là, en ce moment, il faut qu'ils réfléchissent à comment comment je vais dire, trouver des produits de substitution. On parle du manioc, on parle de la patate douce, on parle un peu d'autres choses, mais dans l'urgence, c'est un peu lourd, ça va faire un peu pâteux parce que le manioc et le blé, c'est pas la même consistance. Et peut-être qu'ils vont rentrer dans une forme de recherche. Il y a même, je crois, c'est l'IRAD, hein, ceux qui s'occupent ici de cela, de la recherche dans comment on appelle ça, les cultures, les semences, voilà, les semences. Et ils sont en train d'expérimenter la possibilité de produire du blé au Cameroun. C'est pas plus mal, comme ça équilibre un peu les questions de commerce international, où on n'est pas toujours obligé d'importer les choses qu'on peut faire sur place, ou d'exporter, alors qu'on est soi-même dans le besoin et qu'on a un déficit de production et de consommation. Bon, donc, on félicite, hein, le candidat Macron. Et on attend le second mandat, et on attend surtout que dans 5 ans, on n'ait plus ce genre de configuration. Bon, c'est vrai, Macron va nous faire, par la force des choses, parce que s'il serait encore là, ça, c'est des présidents comme Obama qui auraient pu faire X mandats, des présidents comme Reagan, des gens assez rusés pour passer. La Constitution va l'en empêcher, et après. Bon, on sait que Marine Le Pen ne passera pas, probablement qu'elle se représentera. Monsieur Zemmour, s'il ne fait pas un gros travail dans la façon dans une forme de parler militaire, surtout vis-à-vis des immigrés, qui ne sont plus que des immigrés, c'est des Français, hein, ils votent, c'est un électorat, ils votent, surtout les Maghrébins, ils ont la nationalité. Donc, il va lisser, pas lisser, mais il va voir comment il va être raisonnable sur cette question-là, sans laquelle il passera pas non plus. Bon, alors, chacun fait des élections, certains probablement pour être seulement députés, pour peser au niveau de l'Assemblée nationale, d'autres pour le gouvernement. Il y a place pour tout, hein, il y a place pour tout le monde. Alors, on termine là-dessus. Monsieur Mélenchon, prochain Premier ministre, ça veut dire que les Insoumis vont faire une campagne pour avoir plus de députés que Monsieur Macron? Je crois pas. Je crois pas parce que le PS, vous savez, Monsieur Mélenchon, il était au Parti socialiste avant. Et donc, je crois que ses partenaires là-bas, je sais pas s'ils vont lui pardonner, s'ils vont pas aller rejoindre Monsieur Macron. Et puis là, le vote des députés, c'est encore particulier. Ça dépend aussi des figures qui vont être présentées, etc., etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbock. Je vous dis à bientôt. Si on pouvait faire un post-scriptum, juste pour dire que, avec de bonnes idées, on peut finalement énerver. Mélenchon, il propose deux choses qui se révèlent contre-productives par rapport à l'immigration. Dans l'immigration, oui, c'est déjà de dire qu'il va régulariser les sans-papiers, un peu comme François Mitterrand l'a fait en 1981, régulariser tous les sans-papiers, alors qu'on a un ras-le-bol de l'immigration. Ça, c'était un problème qui pouvait faire fuir et les dom-toms qui ont largement voté pour Marine Le Pen, précisément parce que dans les dom-toms, on se plaint aussi de la pression migratoire, comme quoi. Hein, enfin, faire bondir aussi tous ceux qui, en France, comme Zemmour, disaient exactement le contraire, dans le choc des discours. Et dans la même verve, lorsque M. Mélenchon propose un SMIC à 1 400 euros, ça ne peut pas non plus marcher parce que les émigrés sont déjà accusés de bénéficier de trop d'aides sociales. Et quand on sait que ce sont eux qui sont majoritairement au SMIC, et ça aussi, ça marche pas parce que les Français voient ça de mauvais œil. Ils voient aussi un favoritisme insupportable. Ils ne voient pas, pour eux, ça, c'est pas traiter de l'inégalité sociale, c'est au contraire favoriser l'accès de la classe plutôt des démunis, enfin, pas des démunis, des smicards au rang de classe moyenne, puisque en France, le salaire moyen est de 1 500 euros. Vous voyez la lutte des classes sociales. Alors, il y a pour la classe moyenne un sentiment de déclassement déjà qui parcourt la société depuis longtemps. Et dans cette campagne, probablement que ce déplacement de classe, de la classe bicarbonate et la classe moyenne qui déjà souffre d'un déclassement, donc on avait une guerre entre le déplacement et le déclassement. Probablement que M. Zemmour n'a pas vu cela parce que lui, il parlait beaucoup plus de remplacement. Et alors qu'il y avait un déclassement de la classe moyenne qui se plaint et une sorte de déplacement, un reclassement par le haut de la classe des smicards et la classe moyenne. Il y avait un choc, ça entre en choc et tout ça. Mais bon, malgré tout, M. Mélenchon, il fait un très bon score. Il fait un très bon score. Il fallait-il le dire? Oui, il faut aussi dire ce qu'on pense. Hein. Pourquoi pas? Donc, on prend le risque, on prend tous les risques. La question de la régularisation des sans-papiers aussi à l'aveugle, ça marche jamais. La question du SMIC à 1 400 euros, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Peut-être que Madame Royal aussi a dû le proposer, quelque chose comme ça. Mais c'est une contradiction française aussi que de revendiquer une hausse des salaires et de pas vraiment comprendre qu'il faut une hausse enfin, significative du SMIC. Bon, pour les retraités, j'ai rien dit hein, parce que. C'est pas vraiment un sujet, j'allais dire, majeur dans la question du déclassement, du déplacement, du reclassement. Vous voyez toutes ces choses-là. Ou même du remplacement. Bon, c'était un post-scriptum, hein, vous en ferez ce que vous voudrez, mais il y a beaucoup de choses à dire.